Europe 1. Ondelatte raconte. Christophe Ondelatte.
Une histoire aujourd'hui que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. J'en ai fait l'expérience tout à l'heure avec quelqu'un qui me demandait « Qu'est-ce que tu racontes aujourd'hui ?» Je lui ai répondu « La vie d'Alain Colas ». Le type m'a regardé avec de grands yeux et j'ai compris qu'il ne savait pas qui c'était. Et c'est vrai que ça n'est pas tout jeune. Alain Colas est un grand navigateur qui a disparu il y a près de 40 ans au cours de la première édition de la Route du Rhum à la voile. On ne sait pas ce qu'il est devenu. On n'a jamais retrouvé un boulon de son bateau Manu Reva. Ah là, je vois un sourcil qui se lève. Où es-tu Manu, Manu Reva? La chanson d'Alain Chamfort. Ben, c'est de lui qu'on parle. C'est d'Alain Colas et de son bateau. J'ai écrit cette histoire avec Quentin Mouchel, la réalisation est de Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelatte.
Ce qu'il y a d'unique dans l'histoire d'Alain Colas, c'est qu'il a grandi loin, très loin de la mer. Il n'a pas enfilé de ciré jaune à l'âge de la barboteuse. Il n'a pas fait de dériveur avant d'apprendre à marcher. Il n'est pas allé pêcher au large avec son père ou son grand-père. Il n'avait pas la mer dans le sang, mais alors pas du tout. Alain Colas est un enfant de la France profonde, rural, un bourguignon, un petit gars de Clamcy dans la Nièvre, qui avait la gagne dans la peau. C'est tout. Mais je vous concède que son histoire commence sur l'eau. Mais toujours pas l'eau de mer, trop loin. L'eau de la rivière qui traverse son patelin de Lyon, Clamcy. On est en mai 1959, Alain a 16 ans et il est furax. La mairie a démonté le plongeoir sur la plage de la Tambourinette au bord de Lyon. Non mais vous vous rendez compte? Moi, je vous le dis, ça ne va pas se passer comme ça. Mais ça veut dire quoi? Les jeunes veulent faire un peu de sport. Et voilà, on nous enlève le plongeoir. Et donc, le lendemain, il écrit une lettre ouverte au maire dans le journal local. Le maire qui finit par le recevoir.
Je suis désolé, jeune homme. Mais on va pas le reconstruire, le plongeoir. Bon, eh bien, dans ce cas, aidez-moi à créer un club de canoë et kayak. Du canot et coyote. Bon, pourquoi pas.
D'où ça lui sort cette histoire de canot et kayak? Oh, son père en faisait, et il y en a un vieux qui traîne dans le garage. Et donc c'est parti. Alain gère tout, de la création de l'association à la fabrication des bateaux. Il se fait prêter des moules par un club de Nevers et il sollicite des amis bricoleurs. Il n'a pas un rond, il se démerde. Et il commence à s'entraîner avec ses potes de Clamcy. Avec un état d'esprit bien particulier. Hein. Un truc qu'il a en lui depuis tout petit. La gagne. Que ce soit aux billes, au baby-foot ou au basket, Alain a la gagne. Il ne supporte pas de perdre. Et là, dans cette histoire de canoë et kayak, c'est pareil. Il n'arrête pas de répéter.
En compétition, la place de deuxième n'existe pas. Et si je peux vous donner un conseil, vous partez à bloc, ensuite vous accélérez et vous terminez au sprint.
Et un an après la création du club, une année seulement, le petit club de Clamcy se hisse en championnat de France et finit troisième des championnats de France. Incroyable! Qu'est-ce qu'il en tire, lui, Alain, de cette expérience? Eh bien que quand on veut, on peut. Que quand on s'accroche, on y arrive. Que rien n'est impossible. Qu'on peut aller au bout de ses rêves. Et ça, ça n'est pas prêt de lui sortir du carafon. Un an plus tard, Alain se retrouve à Paris, étudiant à la Sorbonne, en fac d'anglais. Et je vous le dis tout de suite, la ville... C'est pas du tout son truc. Il y a trop de monde, il y a trop de bruit, ça l'angoisse. Alors un jour, son père voit une petite annonce dans Le Monde. On cherche un lectureur au St. John College de Sydney, en Australie. Il a fait des études d'anglais, ça le branche. Et puis là-bas, il y a de l'espace. Il prend donc un cargo pour Sydney, et c'est là-bas qu'il découvre la mer et la voile. La baie de Sydney est constellée de voiliers. Tous les week-ends, il y a des régates. Alors pour l'instant, il les regarde en spectateur, mais ça le fascine. Et ça doit se voir, parce que quelques mois plus tard...
Alain, ça te dirait de faire de la voile avec nous? On cherche un équipier pour une journée. Je pense que... Bah, tu peux faire l'affaire.
C'est comme ça que ça commence. Et il dit yes, bien sûr. Il dit yes tout de suite. Non pas parce qu'il est amoureux de la voile, il n'en a jamais fait, mais parce qu'il est curieux. Et aussi parce que ça colle avec son besoin viscéral d'aventure. Et le voilà donc parti. Et une fois au large, le clapotis contre la coque, le bruit du vent dans le gréement, cette sensation de glisser sur l'eau, c'est une révélation. C'est un coup de foudre. C'est pour moi. À peine rentré au port, il va à la bibliothèque du St. John College et il rafle tout ce qu'il y a sur la voile. Et il y passe toute la nuit à se gaver de jargon nautique. Et pendant un an, il est candidat comme équipier dans toutes les petites régates. Et puis au bout d'un an, faire des ronds dans l'eau dans la baie de Sydney, ça finit par le barber. Il a entendu parler d'une course très prestigieuse, la plus grande, la Sydney Hobart. Alors il va voir l'équipage néo-zélandais.
Hello, do you need a cooker? I'm French, I can cook.
Un Français, pensez-vous, qui propose d'être cuisinier. Il l'embauche. Sa première course, Alain l'a fait en cuisine. Enfin, le reste du temps, il est sur le pont. Il mate, il n'en perd pas une miette. Et assez vite, il n'a Dieu que pour un bateau, un monocoque, Pendwick 3. Et surtout pour le bonhomme qui le barre, Eric Tabarly, un Français comme lui, qui est l'un des skippers les plus célèbres du monde à l'époque. Alors pendant toute la course, il lui tourne autour. Et à la fin, Tabarly gagne la Sydney Hobart et il vient le voir avec une sacrée proposition.
Dis donc, la plupart de mes gars rentrent en France. Et moi, j'ai envie de ramener mon Pendwick en Nouvelle-Calédonie. Ça te dirait d'en être ?
Drôle de question. Évidemment, il ne rêve que de ça. Et voilà donc Alain Colas sur Pendwick 3, aux côtés de son idole, en route pour la Nouvelle-Calédonie. À bord, il n'y a que des Bretons, des voileux depuis le biberon. Alors au début, le petit gars de la Nièvre qui s'est entiché de la voile, ça les fait sourire gentiment. Mais petit à petit, il l'apprivoise. À la mi-janvier, Pendwick 3 arrive à bon port. Ils abordent à Nouméa et vont ensuite mouiller à Ouvéa. Décor de rêve. Vous imaginez. Mais un matin, Tabarly réveille tout le monde.
Les gars, ça commence à tempêter. Ça pousse à 70 km/h, on bouge.
Ils réussissent à s'extirper du lagon, direction Nouméa. Et là, c'est pas sur une tempête qu'ils tombent, ni sur des vents à 70 km/h. Ils tombent sur un cyclone. 200 km/h. Pendwick est à l'horizontale, Dans le roof, tout valdingue, une essoreuse. Et à un moment, Alain, qui a trouvé refuge sur une couchette, blanc, valdingue à son tour. Et quand c'est fini, ouf, ils s'en sortent. Un peu miraculeusement. Putain de baptême du feu! Alors où en est-il de sa vocation, le bourguignon? A-t-il toujours la foi? C'est l'épreuve de vérité, hein? Eh bien oui, c'est exactement l'idée qu'il se fait de l'aventure. Et ça, c'est un énorme atout. Colas n'a peur de rien, et sûrement pas de la mer, ni du vent. Vaut mieux. Ce cyclone va sceller une complicité qui se concrétise trois mois plus tard, en mai 1968. Alain rejoint Eric Tabarly à Lorient, sur le chantier de Pendwick 4, le nouveau joujou de Tabarly, un trimaran, autrement dit pour l'époque, un ovni. Tabarly veut embarquer dessus dans la prochaine transat en solitaire. On n'a jamais vu un trimaran dans une course en haute mer. C'est gonflé. Le chantier, évidemment, a pris du retard. Je vous rappelle qu'on est en mai 1968, la France tourne au ralenti. Et donc Tabarly a besoin de petites mains pour les finitions. Alain Colas n'a pas hésité une seconde. Il est totalement enthousiaste. Un soir, il appelle son frère.
Oh dis donc, tu verrais l'engin ? Une espèce d'araignée géante, un terrain de tennis sur l'eau. 20 m50 sur 10 m60, 120 mètres carrés de voilure, tu te rends compte ? Et alors il bourre, on atteint les 18 nœuds, tu vois ? C'est deux fois plus que Pendwick 3.
Là, je vous la fais courte. Le trimaran n'est pas au point, Tabarly doit abandonner dans la transat. Et aussi dans la course qui suit. Mais ne retenez qu'une seule chose de cet épisode. Alain Colas a assisté au départ de la transat. Il s'y est vu. Il s'y est vu. Un jour, je prendrai le départ de cette course moi aussi. En attendant, Alain Colas roule toujours pour la maison Tabarly. En 1969, il le rejoint en Californie. Eric s'est engagé, avec Pendwick 4, dans une course en solitaire, Los Angeles, Honolulu. L'histoire est très drôle parce que la course est réservée au monocoque. Il ne le savait pas. C'est lui qui gagne, loin devant, hein. Il a 19 heures d'avance. Mais il est hors classement. Le soir même, Alain assiste à une scène absolument incroyable, totalement inattendue. Il voit Tabarly qui monte sur Pendwick 4 et qui accroche une pancarte en contreplaqué. Il s'approche. Au nom de Dieu, il y a écrit « For sale », à vendre. Tabarly a des problèmes avec le fisc, il vend son joujou. Et dans la tête d'Alain Colas, ça va très vite. Il se rue sur lui.
Eric, Eric, je me porte acquéreur. Tu veux combien ?
230 000 francs.
Alain dégaine son carnet de chèques et il lui fait un chèque. De ce qu'il a, hein, c'est-à-dire de ses économies, c'est-à-dire pas assez. À peine un quart de la somme. Alors juste après, il appelle son frère.
Allô ? Jeff ? Tu vas pas me croire, Jeff. J'ai la possibilité d'acheter Pendwick 4. Alors d'abord, il faut que tu m'envoies de quoi me payer un billet retour. Je dois rentrer en France pour trouver du pognon.
Ce bateau, il le connaît comme sa poche. Avec Tabarly, il a déjà parcouru 17 000 milles à bord. Trois fois la transatlantique. C'est une occasion inespérée de se lancer. Le lui acheter, c'est une chose. Mais le lui payer, c'en est une autre. Il a vidé son livret de caisse d'épargne. Il fait un petit crédit auprès d'un organisme de pêche, mais ça ne suffit pas. Alors pour le reste, il fait un deal avec Tabarly.
Si tu veux bien, je te paierai par mensualité. Un peu tous les mois, jusqu'à la prochaine transat. J'ai l'intention de la faire. Ok.
Et il prend donc possession de Pendwick 4 en Nouvelle-Calédonie. Et maintenant, il veut le ramener en Bretagne. Comment ? Eh bien, tout seul. Il n'a jamais navigué tout seul, c'est gonflé. Mais comme son objectif, c'est la transat en solitaire, autant se jeter à l'eau tout de suite. Alain Colas quitte la Nouvelle-Calédonie fin août 1971, avec un sextant, une montre, une boussole, une radio, sa bite et son couteau, comme on dit. Et 4 mois plus tard, à la veille du nouvel an 72, il voit pointer au loin une masse rocheuse. C'est la pointe sud de l'Afrique. C'est le fameux Cap de Bonne-Espérance. À un moment, il croise des voiliers qui participent à une régate. Il leur fait de grands signes.
Eh oh ! Eh oh !
Et il leur balance un sac hermétique.
Please, can you send this to France? It's a message from my parents.
Le sac contient une cassette audio pour ses parents à Clamcy. Ce sont ses vœux de bonne année. Et ensuite, il attaque la remontée des côtes africaines vers la Bretagne. Et 2 semaines plus tard, le voilà en zone tropicale. Un vent torride, des déluges de pluie, il découvre les bonheurs de la course en solitaire. Pendant des jours, il ne dort que 1 heure, 2 heures maximum par nuit. Il passe les îles du Cap-Vert et il arrive au niveau des Canaries. Jusqu'ici, il a été épargné par les tempêtes. Et là, d'un coup, le ciel se couvre, le vent forcit, des rafales de 100 km/h, la mer se creuse, des vagues de 5 mètres, il tombe une pluie glaciale, il y a du brouillard, il ne voit pas à 3 mètres, c'est sa première tempête en solitaire. Mais ça passe. Et en février 1972, le voilà qui arrive à la Trinité-sur-Mer, dans le Morbihan. Vidé, rincé, mais avec une certitude. Il est capable d'affronter une transat en solitaire. Et donc, il s'engage dans la prochaine. Le 17 juin 1972, il prend le départ de Plymouth, direction Newport. Ils sont 52 à se lancer. Personne ne le connaît. Il est très loin de figurer parmi les favoris. Le favori s'appelle Jean-Yves Terlin. Il a un monocoque énorme, 39 mètres. Ça ne l'empêche pas d'être confiant.
Ce bateau, c'est une histoire d'amour et surtout l'histoire d'une idée fixe, courir la transatlantique en solitaire. Elle a lieu en juin prochain. Elle se court de Plymouth, Angleterre, à Newport, en Amérique. Ça représente 3000 milles. Le record, c'est plus de 3 semaines, c'est 26 jours. Et moi, 3000 milles, dans l'océan Indien, je les ai torchés en 12 jours et 14 heures.
Alain dit à son frère qu'avec Pendouille 4, il va torcher la traversée de l'Atlantique en 20 jours. Mais 3 jours après le départ, son pilote automatique le lâche.
Putain ! Saleté de machine, bordel ! C'est pas possible ! Tu peux pas me faire ça !
S'il n'arrive pas à te réparer, il ne pourra plus dormir ni même se reposer. Et donc il se harnache. Il saute dans l'eau glacée et pendant une demi-heure, dans l'eau, il bricole et il parvient à réparer son pilote automatique. 5 jours plus tard, c'est son régulateur d'allure qui le lâche, en pleine nuit, en pleine tempête, avec des vents à 100 km/h. Et là encore, avec sa lampe torche, il bricole et il répare. Il s'était bien préparé, le diable. Il la connaît bien, sa machine. Le 27 juin, 10 jours après le départ, il est à mi-parcours, il est au beau milieu de l'Atlantique, sous un soleil de plomb. Et là, qu'est-ce qu'il voit ? À 3 kilomètres, un autre concurrent de la course, Jean-Yves Terlin, le favori, sur son trois-mâts, vendredi 13.
C'est Terlin, alors là, c'est pas croyable. Je peux pas me tromper, il y en a pas 36 des bateaux comme celui-là. En plein milieu de l'Atlantique, les deux bateaux les plus extrêmes de l'épreuve qui se retrouvent. Mais c'est même pas pensable.
Quelques jours plus tard, les avions repèrent vendredi 13, ils annoncent qu'il est en tête. Et là, tout le monde s'attend à une victoire de Terlin. Tout le monde. Mais le 8 juillet, après 20 jours de course, qui franchit la ligne en premier ? C'est pas Terlin, c'est Colas, c'est Pendouille 4. Il remporte la Transat en 20 jours. 13 heures et 15 minutes. Il explose le record de 6 jours pour sa première course en solitaire. Lui, le bourguignon, qui n'a découvert la voile qu'il y a 6 ans à peine. Au lendemain de sa victoire, Alain Colas nourrit un nouveau projet. Il veut faire le tour du monde en solitaire. Le premier tour du monde en trimaran. et c'est là qu'il décide de changer le nom de son bateau. À partir de maintenant, le bateau construit par Tabarly va s'appeler Manureva. En tahitien, ça veut dire « oiseau du voyage ». Et pour ça, il prépare Manureva. Il a peur des 40e rugissants et du Cap Horn. Il a peur de chavirer, et donc il fait installer des sortes de moustaches sur les flancs de la coque principale. Il la consolide aussi, cette coque, avec de l'alliage en aluminium. Et surtout, en cas de chavirage, il aménage une trappe dans la coque centrale, un panneau qu'il pourra déboulonner si le bateau se trouve cul par-dessus tête, pour sortir à l'air libre. Il apprend avec un chirurgien à se recoudre d'une seule main en cas de blessure, et il prend les conseils d'un vieux briscard de 85 ans, le commandant Léon Gauthier, un capitaine au long cours qui a passé 22 fois le Cap Horn. Et c'est parti. Le 8 septembre 1973, Alain Colas se lance pour son tour du monde à Saint-Malo. La foule s'est agglutinée pour le voir prendre le large. Il est célèbre maintenant. Le commandant Gauthier est sur le quai.
Alain Colas, cette carte a servi à passer 22 fois le Cap Horn. Avec cette carte, je suis toujours rentré à bon port. Alors je vous la confie avec prière de me la rapporter.
Je n'ai pas le temps de vous raconter cette course, mais il réussit son pari. Il réalise le premier tour du monde en multicoque en 169 jours. Il bat le record réalisé en 67 par Chichester, 32 jours d'avance. À peine arrivé, il se lance dans un nouveau projet. Il veut s'offrir un nouveau bateau, un clipper. Un 4 mâts de 72 mètres de long et 1000 mètres carrés de voile. Il le dessine lui-même et il charge l'arsenal de Toulon de le fabriquer. Et en attendant, il continue de naviguer sur Manureva. En juin 1975, la thuine. Il est à bord de Manureva. En jetant l'ancre, sa jambe est emportée par un cordage. Elle est broyée. Broyée, il réussit à se dégager avec son opinel. Il évite l'amputation de justesse. Mais il se retrouve avec des broches et avec des vis. Sa mère vient le voir à l'hôpital.
Mon pauvre chéri, mais qu'est-ce que tu t'es fait ? Maman, ce qui est arrivé, et j'aimerais qu'on n'en parle plus. Hein. Moi, j'ai un bateau à faire construire.
Et effectivement, depuis sa chambre d'hôpital, il continue de piloter la construction de son bateau. Il le met à l'eau en février 1976. Il le baptise Club Méditerranée, du nom de son sponsor. Mais quand 2 ans plus tard, il décide de s'engager dans la première route du Rhum, une transat en solitaire entre Saint-Malo et Pointe-à-Pitre, il n'y va pas sur son Club Méditerranée. Il choisit de faire son tour du monde sur son Manureva. Le bateau n'est plus tout jeune, mais il est plus rapide. Et puis ils se connaissent tellement bien, tous les deux. Le 6 novembre 1978, Alain Colas sur Manureva quitte le port de Saint-Malo. La vérité, c'est qu'il n'est pas très en forme. Depuis son accident, il boite, il est fatigué, il a les traits creusés. Mais il fait un bon départ. Dans le golfe de Gascogne, il est dans le groupe de tête. Régulièrement, il fait des points par radio.
Le bateau marche à merveille. C'est bon, j'ai retrouvé le contact avec Manureva.
À partir de ce moment-là, Alain Colas ne donnera plus jamais, jamais de nouvelles. Et on ne retrouvera jamais aucun morceau de Manureva. Alain Colas et son bateau ont disparu, corps et biens.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.